Ça devrait fonctionner. Alors, bonjour Olivier Longchamp, merci de nous recevoir dans les locaux de la Déclaration de Berne pour parler de ta thèse qui est sortie cette année, en octobre, c'est ça, sur la politique financière fédérale de 1945 à 1958. Alors, je commence tout de suite par une question désagréable, puis ensuite on passera au contenu. J'avais posé la même à Philippe Muller il y a quelques années, en lui demandant à quoi ça sert de publier un tel pavé aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a plusieurs sous-questions dans cette question-là. Alors, la première, c'est d'exposer peut-être les résultats principaux du travail. La seconde, c'est de savoir à quoi ça peut servir pour les militants, et les militants de gauche. Et la troisième, qui est un peu contenue dans cette deuxième, c'est est-ce que tu prévois un résumé ou quelque chose qui permettrait un accès un peu plus facile à ce travail?
Ouais, bon, ça tient en partie au format usuel des thèses en histoire. C'est des thèses qui sont souvent longues, qui sont souvent relativement, je ne sais pas comment il faut dire, relativement ennuyeuses. Je ne sais pas s'il y a des thèses qui sont moins ennuyeuses. Enfin, disons, je pense qu'une thèse par essence, c'est quand même ennuyeux. Ça a un peu la forme assez précise, hypothético-déductive d'une démonstration. Donc, c'est un exposé qui est relativement précis. Il y a de nombreuses citations, c'est des choses qui prennent beaucoup de place. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que c'est une thèse qui a été publiée pratiquement en l'état. Donc, la thèse a été défendue. C'est au départ un travail académique pour l'obtention d'un titre. Et puis bon, ensuite, il se trouve que moi, j'ai quitté le monde académique, j'ai passé à autre chose, j'avais plus forcément le temps d'en tirer un livre de 200 pages ou 300 pages ramassées, et puis ça a été publié en tant que thèse, telle quelle, voilà. Bon, c'est certainement pas un best-seller du fait, effectivement, de ce format. 800 pages, c'est long, et encore, il n'y a pas tout dans la version qui était... La version qui a été défendue, donc qui a été présentée au jury pour l'obtention du titre de docteur, il y avait à peu près 100 pages d'annexes, à peu près, qui sont sur le site d'Antipode et qui ne sont pas publiés dans la version papier. Après, est-ce que je prévois d'en faire une version courte? Non. Donc moi, je travaille plus sur ces sujets-là. Je ne suis plus dans le monde de l'académie. En tout cas, je ne travaille plus avec la logique de l'historien à faire des livres d'histoire. Donc il n'y aura pas de version digest. Si j'avais eu le temps, si j'étais resté à l'Uni, probablement que j'aurais repris entièrement cette thèse. J'en aurais fait peut-être un bouquin 200 ou 300 pages plus court. Mais voilà, c'est un travail d'une année, de deux ans, je n'avais pas le temps de le faire. Donc voilà un peu pour répondre à la question sur la longueur de la thèse. Par ailleurs, je pense que c'est quelque chose qui est... Le but d'une thèse, ça reste d'abord de faire avancer la recherche. Ce n'est pas forcément des ouvrages qui sont des ouvrages grand public, mais ça reste quand même un ouvrage, je pense, qui est relativement accessible, relativement lisible. Le format de l'écriture, puis je pense que c'est... chose qui tient à cœur du point de vue du travail scientifique, c'est censé être compréhensible pour un large public. Je pense que c'est quelque chose, les démonstrations scientifiques claires doivent être accessibles et écrites dans un langage clair. Donc c'est pas du tout non plus un bouquin de spécialiste, et je pense en particulier que le premier tiers se lit relativement facilement. C'est clair, c'est pas du roman policier, le suspense c'est peut-être pas forcément au rendez-vous, mais c'est quelque chose qui est, je pense, relativement séduisant quand même, et qui permet d'avoir déjà, je pense, un bon aperçu du propos général qui est aussi rassemblé déjà dans l'introduction. Donc il y a matière, je pense, avec ça aussi à travailler, même si le but, encore une fois, c'est plutôt d'avoir un ouvrage de référence qui reste pour longtemps.
Et alors, sur les résultats principaux, qu'est-ce que tu en tires?
Alors, c'est une thèse qui peut se lire, je pense, à plusieurs niveaux. Le niveau principal... C'est un peu une espèce de réflexion qui se poursuit sur plusieurs thèses qui ont essayé de réfléchir depuis maintenant une vingtaine d'années au parcours un peu particulier de la Suisse du point de vue de sa politique financière et économique dans le contexte européen. Si on regarde la Suisse, je force un peu le trait, hein, mais disons à la fin du 19e siècle, c'est un pays européen comme les autres. Puis si on le regarde à la fin du XXe siècle, c'est une place financière de premier plan à l'échelle internationale. C'est un pays qui a connu un développement très particulier, en sautant quelque part un peu la révolution industrielle, en se concentrant très tôt sur un secteur tertiaire, sur le secteur des services, en particulier dans le domaine financier. C'est un pays qui a une monnaie forte, c'est un pays qui est qui se caractérise aussi si on regarde l'État du point de vue que le poids financier de l'État ou les dimensions financières du fait étatique sont relativement congrues en comparaison internationale par rapport à ses voisins européens. Et puis la question historique qui émerge quand on fait cette comparaison très grande, c'est au fond qu'est-ce qui explique ce statut particulier de la Suisse. Et puis il y a plusieurs éléments de réponse qui ont été apportés, qui concernent essentiellement la première moitié du XXe siècle. Il y a deux thèses importantes à ce sujet-là. Une thèse qui a été publiée par Sébastien Gué, qui est professeur ici à l'Université de Lausanne, qui s'est amusé à montrer au fond comment la bourgeoisie suisse ou les élites helvétiques ont su imposer un modèle assez particulier, misant sur le développement justement quelque part de ce secteur tertiaire déjà pendant la Première Guerre mondiale, avec les conséquences que ça a eu dans l'entre-deux-guerres. Et puis on a eu une thèse qui a été le fait d'un professeur, maintenant professeur honoraire à Zurich, qui s'appelle Tanner, Jakob Tanner, qui a fait un peu la même chose, la même recherche sur la période plutôt de la Deuxième Guerre mondiale ou de la fin des années 30, donc la crise et la Deuxième Guerre mondiale. Mais on a au fond rien sur la période qui suit, la période des années 50 et du début des années 60, d'abord de la sortie de guerre, puis des années 50-60. Et mon pari avec cette thèse, c'était un peu de continuer les réflexions en cours dans ce cadre très général, l'histoire de la Suisse au XXe siècle, sur la base de ce qui existait, en me concentrant au fond sur une période qui est une période importante en comparaison internationale, parce que c'est souvent là que naît ce qu'on appelle l'État keynésien. Donc un État relativement développé qui prend en charge de larges pans de la vie économique avec le développement de la protection sociale, pour le dire très rapidement. Et puis ici encore, la Suisse se caractérise en comparaison des autres États européens parce que à cette période où l'État se développe rapidement, toute la période des Trente Glorieuses en France, en Allemagne, ailleurs, en Belgique, enfin dans l'essentiel des pays européens, la Suisse suit un parcours un peu particulier avec un État qui reste relativement restreint dans la sphère, dont l'ampleur reste relativement restreinte à cette période, avec aussi un discours politique qui est de la part des élites politiques à cette période-là relativement cohérent, consistant à dire au fond on ne veut pas d'un État qui se développe, on préfère que l'État reste quelque chose de relativement faible, que ses dimensions financières restent faibles. Et l'idée, c'était un peu d'essayer de regarder au fond qu'est-ce qu'il y a là derrière, qu'est-ce que c'est la place de la Suisse dans la division internationale du travail à ce moment-là, qu'est-ce que c'est la pensée politique qui se développe à ce moment-là, quelle est sa position dans la pensée politique de l'après-deuxième guerre mondiale, et puis surtout comment ça a été possible que cette politique s'impose du fait des rapports, du point de vue des rapports de force internes politiques suisses, mais aussi du fait de la position déjà de la Suisse dans c'est le fait que la Suisse soit déjà à ce moment-là une principale place financière internationale, des choses de ce style-là.
Bien, merci. Maintenant sur le contenu, moi j'avais des questions qui essaient de prendre un peu de biais la démonstration de ta thèse. La première que je voulais te poser, c'est sur ta comparaison internationale.
Oui.
Et donc, ce n'est pas ton travail dans cette thèse-là, bien sûr, mais est-ce que tu as quand même un peu débroussaillé le terrain, et notamment par rapport à deux cas, deux ensembles de cas. Le premier, ce serait des petits États européens qui auraient pu jouer le même rôle que la Suisse, je pense notamment à la Suède. Et puis l'autre cas, c'est les États-Unis, où la place de l'État est finalement assez comparable à celle de la Suisse, et où on a aussi un État très peu développé, en tout cas au niveau national, avec les mêmes problèmes pour additionner bien sûr les différentes choses.
Bon, donc comme tu le disais, moi je ne me suis pas lancé dans une grande comparaison internationale. Je pense d'ailleurs, pour avoir vu des ouvrages publiés à ce sujet-là, en particulier sur les questions de finances publiques, il y en a un certain nombre qui sont peut-être plus connus, mais plutôt sur les questions maintenant des politiques sociales. La comparaison internationale est presque devenue à la mode dans ce domaine-là. Je trouve que l'exercice atteint assez vite ses limites, parce que quelque part on fait la comparaison, on en tire des conclusions, mais sans regarder réellement comment les choses se développent dans un contexte national qui est quand même toujours relativement précis, surtout à cette période-là, et qui est loin d'être finalement comparable. Maintenant, ce qui moi m'a frappé dans le cas de la Suisse, c'est le fait que, et c'est à mon avis quelque chose qui distingue clairement la Suisse de des États-Unis et de la Suède, c'est le fait que très vite, une partie importante de la gauche, non sans résistance, ça se discute d'ailleurs à cette période-là, mais au fond, une partie relativement importante de la gauche, y compris le Parti socialiste, qui est quand même à ces années, les années où il a le plus de poids au niveau politique, accepte peu à peu, ça ne se fait pas d'une fois, ce n'est pas un mouvement linéaire, ça ne se fait pas sans retour en arrière, mais accepte finalement l'idée que, quelque part, on n'arrivera pas à avoir en Suisse une politique de type keynésienne. Et plusieurs des postulats qui étaient des postulats de base en matière justement de finances publiques, de rôle de l'État, du PS dans les années 30, une période où le PS est quand même encore relativement combatif, se retrouvent remis en cause dès la fin de la guerre. Et le PS lâche, parce qu'il est dans une position de minorité politique, hein, avec jamais la possibilité de faire réellement passer ses positions, sur l'essentiel de ses préceptes, en suivant finalement idéologiquement un peu l'évolution politique de la période. Et ça, c'est quelque chose qui m'a frappé et qui était, je pense, loin d'être explicable d'emblée et qui, je pense, jette aussi un peu un regard, jette une lumière un peu différente sur les rapports de force politique de cette période-là.
Et est-ce que... T'ajoutes aussi que les syndicats ont une responsabilité dans cette transformation en Suisse dans l'après-guerre, la participation du PS au Conseil fédéral, bien sûr. Derrière ça, est-ce qu'on n'a pas aussi une autre affaire, c'est-à-dire que, et on avait aussi eu cette discussion avec Philippe Müller, je m'en souviens, est-ce que la politique que mène la bourgeoisie suisse est une politique qui serait impossible dans beaucoup d'autres pays parce que, d'une certaine manière, l'économie suisse a besoin des économies, des autres économies européennes et même mondiales. C'est-à-dire c'est une forme d'économie prédatrice dans une assez large mesure. Donc est-ce qu'on peut interpréter la mise en place de ces politiques ou le retour au libéralisme, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit à partir de 1945, comme d'une certaine manière une variable d'ajustement que les bourgeoisies d'autres pays ont laissé à la Suisse, d'une certaine manière?
Alors, je verrais les choses un tout petit peu différemment, mais je te donne raison sur l'essentiel de l'analyse. Mais je nuancerai sur deux éléments. D'abord, la première chose, c'est que je ne pense pas que les syndicats ou le PS en soi ont une responsabilité dans cette évolution. Disons, ils ont une responsabilité, mais c'est une évolution dans laquelle, fondamentalement, eux-mêmes sont à la remorque d'une évolution socio-économique plus générale, qui est le fait que la stratégie de la bourgeoisie helvétique porte ses fruits dès l'immédiat après-guerre et qu'elle permet au fond d'améliorer suffisamment avec les miettes qui tombent de la table et qui bénéficient finalement à l'ensemble de la population suisse, elle permet d'améliorer suffisamment la situation de cette population pour qu'une partie toujours plus étendue du salariat s'identifie ses propres intérêts à ceux de la bourgeoisie dominante. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de relativement étonnant ou de relativement particulier et qui n'aurait peut-être pas forcément été possible dans d'autres pays non plus. Ça tient au fait que la Suisse est relativement petite, ça tient au fait qu'elle est déjà extrêmement bien positionnée dans ce paysage socio-économique, mais aussi économique et financier de l'immédiat après Deuxième Guerre mondiale. Et finalement, la stratégie de la bourgeoisie suisse paye très vite. Et ça, c'est quelque chose qui est assez étonnant. Pour moi, l'évolution du PS et des syndicats, c'est pas forcément elle qui est le moteur ensuite de cette évolution générale, mais c'est plutôt un marqueur de cette évolution qui est assez déterminant plutôt du côté de la politique, disons de la situation socio-économique plus générale. Premier point sur lequel je nuancerais, le deuxième point sur lequel je nuancerais, c'est le fait que, à mon avis, comment expliquer ça clairement ? À mon avis, si on regarde les choses, j'ai pas l'impression forcément que la bourgeoisie helvétique se place dans une situation où, quelque part, elle choisit. Je vois bien, enfin, je suis assez d'accord avec l'idée, un modèle économique qui est prédateur, ou disons, dont les dimensions sont prédatrices, et qui va effectivement être impossible à généraliser, puisque quelque part, il consiste à mettre tous les rameurs forts dans un petit bateau, et puis à dire, regardez, nous, on a trouvé la bonne solution, pourquoi les autres ne font pas la même chose. Mais les rameurs forts sont déjà dans ce bateau-là, donc on ne peut pas les mettre dans un autre bateau. Donc de ce côté-là, la dimension prédatrice, j'y souscris complètement. Mais je n'ai pas l'impression que cette bourgeoisie helvétique réussit seule à se hisser dans cette position. J'ai l'impression qu'elle le fait en partie parce qu'elle comprend qu'il y a un rôle à jouer là, qui a un rôle de niche, qui a un rôle particulier, qui a un rôle certainement pas généralisable, même si encore aujourd'hui les Suisses disent « Regardez comment on gère bien nos finances publiques et puis pourquoi les Français ne sont pas capables de le faire. Mais il y a une compréhension étroite du fait qu'en adoptant cette posture, en adoptant quelque part cette position de niche, ils offrent un avantage important aux couches dirigeantes et à la bourgeoisie dominante des pays environnants. Et ça, c'est un des trucs qui m'a beaucoup frappé aussi quand on regarde, par exemple, les discussions autour du secret bancaire à la fin des années 50-60. Du côté français, par exemple, il y a du côté américain, il y a des couches importantes de l'État français ou de l'État américain qui disent, au fond, les Suisses commencent à me taper sur le système avec ce secret bancaire, avec l'évasion fiscale, avec... l'argent sale, il y a des choses de ce style-là qui commencent à émerger dans la presse internationale dès le milieu des années 50. C'est pas des choses qui sont nouvelles d'ailleurs, on a déjà eu un peu ce discours-là pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais il y a aussi des mêmes couches au sein de cet État-là qui disent en même temps, si on le touche, on a un sérieux problème parce que quelque part, les groupes qui en profitent, les groupes socio-économiques qui en profitent, finalement, c'est aussi nos élites. Donc, quelque part, nos intérêts bien compris font qu'on ne va pas taper trop fort sur la France. Et s'ajoute à ça un élément encore plus important, c'est le fait que le modèle helvétique présente une forme de repoussoir qui permet, quelque part, de justifier, par exemple avec des arguments du type la compétitivité nationale, ce genre de choses, de contrer les arguments de la gauche ou des forces les plus étatistes dans ces pays-là, en fonction des contextes nationaux. Donc là, je dirais, il y a certes une vision prédatrice, mais c'est une vision prédatrice qui est aussi en partie tolérée, alimentée, voulue, reconnue par les élites des pays environnants au nom de leurs propres intérêts. Et c'est quelque chose que je trouve aussi relativement intéressant. J'ai essayé de caractériser ça dans ma thèse en me disant, au fond, la Suisse joue à cette période-là un peu le rôle d'une vestale du libéralisme. Oui. Qui perdure quelque part dans une période où c'est clair, il y a un modèle différent, mais où il y a aussi une conscience dans certains milieux, en tout cas, certains milieux, par exemple, de académiques au sein des universités, dans le domaine en particulier de la pensée politique, mais aussi dans le domaine de la pensée économique, où il y a une conscience assez claire du fait que ce moment est une sorte de mauvais moment à passer et que le libéralisme reviendra tôt ou tard. Donc là, il y a quelque chose que je trouve assez particulier dans le rôle que la Suisse joue à ce moment-là. Et qu'on retrouve dans plein de domaines. Je discutais avec Mathieu Leingruber, par exemple, sur lui, il a beaucoup bossé sur les questions d'assurance, hein, le modèle d'assurance sociale, opposé au modèle d'assurance sociale, basé sur la prévoyance privée. Et il montrait que dans les débats liés à la prévoyance sociale en général, l'existence d'un modèle suisse qui réserve une part importante de la prévoyance professionnelle, par exemple, au secteur privé, était quelque chose qui avait servi de témoin, d'icône, dans des pays qui avaient a priori rien à voir avec la Suisse, où la situation politique et sociale était complètement différente. Et vous vous dites, ah, regardez comme les Suisses font bien les choses. Quoi.
D'une certaine manière, la Suisse, c'est l'équivalent du système médical cubain, quoi. Enfin, on met tout.
Ouais, il y a un peu de ça.
On concentre les moyens dans une vitrine.
Il y a un peu de ça, et je pense que ça, c'est pas quelque chose qui tient que à la bourgeoisie suisse non plus, mais je pense que c'est quelque chose qui est une sorte d'évolution systémique dans laquelle les élites bourgeoises des pays européens ont trouvé aussi, d'une certaine façon, leur compte, et c'est la raison aussi pour laquelle ils l'ont toléré si longtemps, cette politique particulière de la Suisse.
Moi j'avais une autre question, alors ça c'est la question du théoricien politique un peu obsédé par ses affaires, c'est sur la définition de l'État. En fait, ça m'a surpris en lisant, pas l'intégralité, je m'en excuse, mais en lisant ton texte, c'est-à-dire qu'on a une vision, disons, historique et en termes de rapports sociaux, qui est, je le dis d'ailleurs explicitement, qui est une vision marxiste, de classe sociale, en termes de rapports de classe, de lutte de classe, et de fractions différentes de la bourgeoisie notamment. Et puis, il y a une définition de l'État qui est en réalité une définition assez juridique, qui est en fait une définition plutôt libérale. C'est-à-dire l'État, c'est le Parlement, c'est l'administration, etc. Et moi, je repensais à Max Weber qui disait, vous savez, toutes les politiques de décharge, en fait, qui ont été très longues en Europe, notamment dans l'Ancien Régime, où on confiait à d'autres acteurs la gestion de biens publics, entre guillemets, mais qui n'étaient pas gérés directement par l'administration centrale, ça fait partie de l'État, enfin, ça fait partie, en tout cas, de la constitution de l'État. Et à partir de ce moment-là, est-ce que il faut pas être très prudent lorsqu'on dit que l'État en Suisse est relativement restreint, par exemple? C'est-à-dire, pour prendre un exemple très clair, enfin, même plusieurs exemples, on sait que la politique agricole n'est pas fondamentalement faite par l'Office fédéral de l'agriculture, mais plutôt par l'Association suisse des paysans. Est-ce qu'on n'est pas quand même face à une forme de politique étatique, en fait, dans le cadre de la politique agricole? Autre exemple que Johan Boya a montré dans sa thèse qui est sortie l'année passée, sauf erreur, sur le cartel horloger, est-ce qu'on n'est pas en réalité face à une politique quasi-étatique dans ce cas-là? C'est-à-dire qu'il y a un monopole qui est posé de manière extrêmement, extrêmement dure, avec des organes de coercition notamment. Les entreprises qui exportent sans demander l'autorisation sont condamnées à des amendes, etc. Donc comment est-ce qu'on peut s'en sortir dans cette affaire où on a, dans ton cas, une vision marxiste de l'histoire et du développement des rapports de force entre classes sociales et cette définition de l'État?
Bon, ce qui était important pour moi, d'abord, c'était d'éviter de tomber dans un travers, ou disons dans un piège, parce que je pense qu'on pourrait y tomber assez facilement, qui est celui de la vision de l'État des socialistes des années 50. Donc quand on lit les sources, la vision, peut-être même encore plus dans les années 40, la vision qu'une partie importante des socialistes veulent avoir quelque part de l'État, et ils s'auto-illusionnent parfois avec un degré de conscience qui varie là-dessus, c'est la vision d'un État social. Or, l'État qui se développe en Suisse à ce moment-là, c'est pas un État social, c'est un État bourgeois dont la politique, même lorsqu'elle est interventionniste, est guidée d'abord par les intérêts à long terme du patronat. Et ça, c'était pour moi le principal écueil à éviter. Parce qu'eux voient effectivement les années 50, donc c'est le moment où il y a la loi sur l'agriculture en 53, c'est le moment où il y a le développement important des subventions agricoles, il y a la reconversion quelque part aussi de toute l'économie de guerre sous forme quelque part d'une économie de paix, mais destinée à soutenir les secteurs un peu branlants du bloc bourgeois, typiquement justement l'agriculture. Et eux voient ce développement de l'État comme quelque chose qui est au fond... ils le disent même, d'ailleurs, je me rappelle d'une citation, ils disent, c'est en allemand, donc le wagon de l'étatisation roule et nous en sommes fort contents. Et je pense qu'ils s'illusionnent complètement à ce moment-là, parfois avec une certaine lucidité, sur ce que c'est au fond la fonction de ce développement de l'État. Et ça, c'était quelque chose de relativement important pour moi. Il ne s'agit pas ici de développer l'égalité sociale, il ne s'agit pas ici de développer, quelque part, de restreindre pour soi le marché parce que ce marché ne fonctionne pas, il ne s'agit pas ici de développer une politique de pilotage économique, il s'agit de cimenter quelque part un consensus politique particulier, voilà, l'exemple de la présidence est excellent de ce point de vue-là, en concédant à travers l'État à des prix qui sont censés être des prix de transfert aussi bas que possible, des avantages particuliers au nom d'une certaine stabilité politique, mais qui servent finalement les intérêts à long terme de la bourgeoisie ou du grand patronat. Et ça, c'était pour moi important de ce point de vue-là, de ne pas tomber dans une conceptualisation de l'État qui aurait été déplacée par rapport à sa nature. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, alors c'est clair, on peut tout à fait considérer que sur certains points particulier du point de vue de sa politique sectorielle, l'État est loin d'être insignifiant en Suisse, effectivement avec l'horlogerie, effectivement avec la paysannerie. Je vais revenir sur ces deux exemples, parce que je pense que c'est des exemples importants aussi historiquement. On aurait pu avoir aussi une vision différente, déjà simplement si on avait inclus par exemple les PTT, donc les régies publiques, hein, dans l'analyse, que j'ai choisi de ne pas faire. Mais disons, j'ai choisi d'être assez pragmatique, et puis je m'en excuse, peut-être qu'il faut être un peu plus conceptuel dans ce genre de choses-là, mais en regardant les choses d'une façon, quelque part, en suivant la voie de l'argent, c'est une voie qui est souvent un petit peu, comment il faut dire ça, un petit peu ennuyeuse, mais au fond assez efficace, et en regardant au fond simplement les dépenses publiques, qu'est-ce que c'est, comment est-ce qu'elles sont développées, et en repérant ensuite les anomalies de ce point de vue-là. Maintenant, et la paysannerie et le et tout le développement au fond de justement de la cartélisation dans le domaine de l'horlogerie. On aurait pu rajouter le sauvetage bancaire des années 30, ça Philippe Müller en parle beaucoup, mais on aurait pu ajouter aussi toute la politique, par exemple, de développement de l'armée. Dans les années 50, c'est absolument clair que c'est des politiques où l'État se développe, où il y a des dépenses qui sont des dépenses très importantes, c'est d'ailleurs les plus gros postes du budget de cette période-là, hein. Et qui sont, au fond, quand on va regarder un petit peu plus sur le volet des dépenses consenties pour des raisons politiques particulières, en direction de la politique agricole, c'est pas comme je le disais, le soutien, le renforcement du bloc bourgeois, tout ce qui est les dépenses militaires, une grande partie des dépenses militaires, c'est soit l'industrie d'exportation, soit, et c'est beaucoup plus intéressant à mon avis, beaucoup moins analysé, le soutien quelque part à ce qu'on appelle abusivement les classes moyennes, paupérisé par la crise des années 30, c'est des subventions destinées aux celliers, aux bourreliers, aux bouchers, parce que c'est là qu'on achète, aux petits commerçants, c'est là que l'armée achète quand on a 2000 personnes dans un cantonnement à Airolo. Enfin bref, c'est donc une sorte de subventionnement indirect de secteurs particuliers en déclin économique du bloc bourgeois dans cette période de transition rapide et de modernisation. Et ça, c'est quelque chose qui est relativement intéressant de voir que l'État peut être interventionniste tant dans les années 30 avec le sauvetage des banques ou justement le développement d'un cartel horloger, parce que c'est là que ça se met en place avec la SUAG, etc., ou dans les années 50 avec la politique de dépenses dans le domaine militaire ou agricole, mais toujours pour des finalités précises, répondant aux intérêts contextuels de cette grande bourgeoisie. Et ça, je trouve que c'était intéressant et je pense l'avoir relativement bien montré. Et c'est quelque chose qui est relativement peu montré jusqu'ici, d'ailleurs, je trouve. Oui.
Johan Boyer, je lui avais demandé s'il était prêt à dire que le secteur de l'horlogerie, c'était un libéralisme planificateur, une espèce de contradiction dans les termes. Et on a souvent cette impression-là en Suisse. D'ailleurs, ça va peut-être même jusqu'à l'Ancien Régime, parce qu'on a des exemples de planification assez poussés. Et il me semble me rappeler qu'il était plutôt d'accord avec cette définition-là. C'est-à-dire qu'on a à la fois une position très libérale, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'État, dans son sens le plus restreint, viennent fourrer son nez dans nos affaires, mais en même temps on a une véritable politique industrielle de planification. C'est très impressionnant sur l'horlogerie, en plus c'est sur une petite région, donc on voit tout à coup se mettre en place, enfin c'est pas un gosse plan, mais c'est pas, on n'est pas très très loin non plus, hein,
pour le cas de l'industrie horlogère, j'aurais tendance à partager cet avis. Maintenant, j'en ferai pas une règle. Hein. Dans le cas de la politique, par exemple, liée aux banques ou l'attitude de l'État face aux banques, on est très très loin de ça. On est dans une situation où, au fond, la guerre, c'est une période un peu différente. Il y a un bras de fer à la fin de la guerre dont on ne perçoit pas encore tous les tenants et aboutissants. Ou quand même, je dirais, les choses sont un petit peu différentes. Mais à partir des années 50 en tout cas, et puis je crois jusqu'à la fin des années 70, jusqu'au milieu disons des années 70, après ça change de nouveau, l'État laisse la place financière suisse croître dans une situation qui est une situation de sous-réglementation, de sous-régulation tout à fait manifeste, avec une concurrence quand même relativement forte d'ailleurs des banques les unes par rapport aux autres, entre elles dans les mêmes catégories de banques. Après c'est clair qu'une caisse Raiffeisen ne va pas concurrencer UBS, enfin bon, mais j'aurais tendance en même temps créer un peu des espèces de conditions cadres, c'est sûr, mais dire réellement que la logique presque, ce gosse-plan libéral qu'on voit dans l'industrie horlogère, le généraliser à l'ensemble des secteurs économiques suisses, non, ça irait trop loin pour moi. Ouais. Il me semble.
Fanny. Pas d'intervention. Peut-être la dernière question, mais qui pourrait nous mener assez loin. Et qu'est-ce qu'on en fait ? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu tires comme enseignement pour la politique suisse aujourd'hui, sachant que, comme toujours, quand on fait de l'histoire suisse, certaines des continuités sont très frappantes.
C'est intéressant parce que ça pose déjà presque la question du vieillissement de cette thèse. Elle a été rédigée dans une période, donc l'essentiel de la rédaction s'est faite en 2005 et 2009. La thèse a été défendue en 2009. À une période où on était avant ou pendant la crise, la crise financière d'abord, puis économique européenne, on était avant l'affaire UBS, on était avant qu'on commence à discuter de remettre en cause, ou en tout cas de configurer différemment le secret bancaire helvétique. On était dans une période quand même qui était celle d'un néolibéralisme triomphant, un peu déclinant, enfin un peu, déjà peut-être en phase de pré-déclin, mais en gros, l'idée que l'État c'était une sorte de parasite qu'il fallait faire disparaître par le trou de la baignoire, c'était une idée qui était véhiculée tant dans les médias qu'au sein du monde académique. Et puis moi je trouvais dans ce contexte-là, quand j'écrivais ma thèse, c'était des choses que j'avais fortement en tête, et je trouvais que c'était assez éloquent de voir au fond comment et pourquoi ce modèle libéral, ou peut-être même ultra-libéral, s'était construit, développé en Suisse, pourquoi il suscitait aussi une adhésion si large. Après, depuis 2009, les choses sont quand même un petit peu autrement, et puis disons qu'on n'est plus dans la situation dans laquelle on était, je trouvais quand même passablement, dans le début des années 2000, d'une gauche complètement atone face à cet ultralibéralisme, incapable d'en remettre en cause les valeurs de base, ou les fondements, et dépourvu aussi de mémoire, incapable de remettre, de déconstruire à l'aide des outils historiques ou d'autres, comment quelque part ce néolibéralisme en était arrivé à devenir l'unique doctrine admissible, un peu « there is no alternative », comme on disait à l'époque. Donc ça, je trouvais dans cette situation-là que cette thèse avait sa justification. Après, bon, il faut terminer une thèse, il faut la publier, ça met 5 ans. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui sont là-dedans, qui sont peut-être un tout petit peu moins révolutionnaire que ça pouvait l'être si la thèse avait été publiée 5 ans auparavant. Maintenant, moi, ce que je trouve relativement intéressant aussi, c'est de voir que on est dans une situation quand même où, malgré tout, l'essentiel du modèle qui s'est imposé et qui a expliqué le développement quelque part de la Suisse dans ces années 50-60, l'idée de garder un État relativement faible, avec une puissance financière relativement restreinte, etc., c'est un modèle qui tient toujours. On a aujourd'hui des débats sur la fiscalité des entreprises qui sont au fond pas très différents du point de vue même de leur forme des débats qu'on pouvait avoir dans les années 50. Et je pense que c'est intéressant de replacer ça dans une perspective historique, et puis de voir aussi un petit peu au fond à qui sert cette politique.
Et sur le secret bancaire, par exemple, qu'est-ce que... Puis, bon, il y a tout un chapitre que tu consacres à cette question-là, et qu'on a vu précisément depuis 2008 que la solidarité entre les bourgeoisies européennes et nord-américaines avec la bourgeoisie suisse s'est un peu érodée, disons, qu'il y a des attaques quand même assez convergentes, qui ont fait avancer le dossier beaucoup plus rapidement que toutes les politiques de la gauche, toutes les propositions de la gauche en Suisse, disons.
Ouais, ce qui est d'ailleurs pas la moindre des ironies.
Et qui nous fait passer pour des traîtres à la patrie en plus.
Ouais. Le secret bancaire, ou disons l'évasion fiscale internationale, n'est pas au centre de cette thèse. C'est pas le propos. C'est pas une histoire du secret bancaire ou même une histoire de l'évasion fiscale. On n'est pas là-dedans. Ce que je montre quand même, je pense, et ça c'est une contribution à cette histoire qui reste largement à écrire, c'est que dans la configuration de la politique pratiquée à l'égard des banques, dans la façon dont on détermine ce que c'est que les règles en matière d'évasion fiscale, en matière de soustraction fiscale à l'échelle purement suisse interne, le facteur qui est peut-être surdéterminant, c'est la question de savoir si les dispositions qui sont choisies de ce point de vue-là avantage ou désavantage les banques sur le marché international de la gestion de fortune, un marché sur lequel le principal avantage des banques suisses consiste à pouvoir accueillir à l'abri du secret bancaire suisse les sommes provenant de l'évasion fiscale internationale. Et ça, c'est quelque chose que je trouve quand même relativement fou, que dans une discussion qui se passe, même pour le fisc, et qui est souvent intériorisée hein, par le fisc, par l'administration fiscale helvétique, le fait qu'au fond, quand on discute soustraction fiscale, on ne se pose pas la question: est-ce que les citoyens suisses payent bien tout ce qu'ils nous doivent? Est-ce qu'on aurait d'autres moyens de, quelque part, combattre la soustraction fiscale, etc.? Mais qu'on se pose la question, est-ce que quand on combat la soustraction fiscale, on n'est pas en train de casser les reins à nos grandes banques? C'est quelque chose que je trouve assez révélateur de l'indépendance finalement, ou de l'acceptation de ce modèle de parasitage fiscal, de cannibalisme, comme tu l'évoquais avant, qui s'est développé déjà avant, mais qui est déjà, je pense, très intériorisé à ce moment-là, et qui alors prend son enveloppe avec des proportions pharaoniques.
Comme disait le ministre d'Eisenhower, ce qui est bon pour General Motors, c'est bon pour l'Amérique, ce qui est bon pour l'UBS, c'est bon pour la Suisse.
Un peu, ouais.
Et c'est depuis quelques années, on le voit très clairement. Enfin, la boutade sur les traîtres à la patrie, on l'a entendu. Hein, le droit de 10 ans, vous travaillez pour les Américains. On ne nous a pas encore accusé, comme c'était le cas dans les années 50, d'être payé par la CIA. Enfin, à ce moment-là, c'était le KGB plutôt. Moi, je reviens un petit peu en arrière. Il y a une chose qui m'a beaucoup intéressé dans ta thèse, c'est que c'est comme tu décris comment en fait la bourgeoisie suisse n'a pas besoin de l'État de la même manière qu'elle en a besoin dans d'autres pays. On reste là alors dans une analyse purement marxiste, c'est-à-dire il faut fabriquer le consensus, disons, et même un peu trancher quand il y a des intérêts divergents. Et tu montres que malgré le fait qu'il y a des intérêts tout à fait divergents dans la bourgeoisie suisse, et ça c'est quelque chose qu'on voit aussi à plus long terme, Cédric Humer l'avait montré pour 1848, enfin, là ça tire un peu finit quand même en guerre, mais précisément après c'est plus le cas, c'est-à-dire qu'ils arrivent à se mettre d'accord sans véritablement la médiation de l'État. Et alors bon, l'hypothèse principale c'est le fait que c'est en fait une toute petite société, c'est-à-dire c'est des gens qui se connaissent, qui sont passés par les mêmes universités, qui sont présents dans différents conseils d'administration, donc ça tu le rappelles bien, on est à la fois dans le conseil d'administration de la banque, mais à la tête d'une grosse entreprise de machines-outils ou je sais pas quoi. Et là aussi, il y a peut-être une question de comparaison internationale. Là, on ressort un peu du cadre de la thèse. Est-ce que ça existe, enfin, on le voit quand même dans d'autres pays aussi, c'est-à-dire ce que White Mills, on en parlait il y a quelques semaines, montrait sur les États-Unis, ça montrait comme des choses relativement similaires. Donc est-ce qu'il y a quelques éléments en plus qui distinguent cette construction de la bourgeoisie en Suisse, cette espèce de solidarité extrême?
Je ne sais pas, j'ai de la peine à dire. J'ai d'ailleurs pas, je pense que j'ai livré quelques éléments de réponse, mais je ne pense pas que j'ai fait le tour de la question. Je pense qu'on ne comprend toujours pas comment, au fond, on ne comprend toujours pas bien comment, au fond, cette bourgeoisie a réussi à s'intégrer aussi rapidement et aussi complètement. Mais c'est vrai que ça m'a frappé, par exemple, quand on regarde la situation allemande des années 20, tous les débats au tout début des années 20 sur la crise économique, sur la valeur du mark, on voit vraiment cette bourgeoisie qui est pratiquement un couteau tiré entre ces secteurs financiers, ces secteurs industriels qui défendent, qui n'ont pas du tout les mêmes intérêts, qui ne les défendent pas. Là, ça m'a frappé quand même de voir à quel point, dans des périodes où on pourrait imaginer des désaccords substantiels entre la place financière suisse et la grande industrie d'exportation, autour par exemple de la valeur du franc dans les périodes d'immédiat après-guerre, autour de la politique, justement, les questions liées à l'amortissement de la dette de guerre ou pas, enfin ce genre de choses-là, de voir à quel point finalement cette bourgeoisie, en dépit de tensions, en dépit de moments qui sont des moments parfois critiques, je pense 45-46 est un moment quand même relativement critique de ce point de vue-là, au fond, au final, ils arrivent quand même à faire la synthèse de leurs intérêts, à les imposer et à paraître très très unis, en tout cas, à la fois dans l'arène politique et face à leurs interlocuteurs, en particulier du monde ouvrier, comme les autres secteurs, disons les autres organisations fêtières, pour le dire rapidement. Et ça m'a frappé. Je ne sais pas très bien à quoi ça correspond. Après, quelles sont les raisons qui expliquent? Tu as mentionné les facteurs que j'ai moi-même identifiés, la proximité, le fait que ce soit un petit pays, le fait qu'on soit dans un système où, au fond, les mécanismes aussi de fonctionnement des associations fêtières, de création de cette convergence est une longue tradition. Il y a un certain nombre d'éléments qu'on connaît, mais je ne suis pas sûr que j'ai fait le tour et vraiment expliqué complètement cette histoire-là. Après, qu'on retrouve ça dans d'autres pays, alors j'en doute pas du tout. Ça, c'est très probable. Après, qu'est-ce qui se passe en Norvège dans les années 60, j'en sais rien.
Il faudra peut-être aller voir dans les États scandinaves qui sont peut-être proches. Est-ce que tu as exploré l'hypothèse, la réponse de la démocratie directe? Ou pas du tout?
Assez peu.
Si la bourgeoisie, là il y a quand même une différence entre la Suisse et les autres États. Si la bourgeoisie commence à se friter, et d'ailleurs on l'a vu, on l'a encore vu le 9 février, hein, c'était quand même un exemple, une sorte d'exemple de ce type-là de position, ça prend tout de suite des proportions un peu différentes en Suisse. C'est-à-dire qu'on va avoir des initiatives qui vont être déposées, on va avoir des référendums qui vont attaquer les politiques mises en place au niveau fédéral.
Bon, moi, ce qui m'a frappé plutôt pour les années 40-50, parce qu'il y a quand même au total, maintenant je ne me souviens plus, mais quand même 13 ou 14 votations, je crois, qui portent sur les objets fiscaux, ou disons sur la politique financière fédérale durant cette période, la période analysée. Donc ça fait pratiquement une votation par année, c'est pas rien. Et c'est un peu le lieu fort de toutes les discussions de cette période-là, avec les questions d'assurance sociale, mais qui sont plus épisodiques. Il y a un peu 45-47 les discussions sur l'ABS, puis après il y a l'AI qui revient. Avec en 58 finalement, mais le lieu fort de ces 14-15 années d'après-guerre, ça reste les questions autour de la politique financière fédérale. Et moi, ce qui m'a plutôt frappé dans ce domaine-là, en allant regarder vraiment les archives des partis, en allant regarder comment la politique se faisait dans les commissions parlementaires, en allant regarder un peu aussi les archives des comités référendaires ou d'initiatives de cette période-là, c'est de voir à quel point, au fond, cette diplomatie directe était instrumentalisée par les groupes d'intérêt bourgeois qui arrive avec une puissance de feu financière extraordinaire dans ces initiatives à faire passer des mots d'ordre, à faire passer leurs mots d'ordre parfois à l'encontre des majorités gouvernementales. Moi, c'est plus ça qui m'a frappé, beaucoup plus que, quelque part, l'obligation pour ces groupes-là d'apparaître avec une position ferme face à une démocratie directe très vivante, disons. Après, est-ce que ça joue un rôle ou pas ? Je n'y ai pas réfléchi.
Donc. Mais dans ma question, j'imaginais des situations où justement la bourgeoisie instrumentalise, mais dans les deux sens. Donc tu vois, si on avait voté sur la fixation à 1,20 franc, par exemple, il y aurait forcément eu des secteurs de la bourgeoisie suisse qui auraient fait campagne contre la fixation du taux plancher. Et donc là, tout à coup, tu te retrouves avec deux groupes de pression qui peuvent mettre des moyens assez importants. Si on pousse un petit peu, on finit avec l'image des élections présidentielles américaines où il y a des sommes complètement délirantes qui sont investies là-dedans. Mais c'est une
hypothèse. Je sais pas, j'ai pas réfléchi très loin dans ce sens-là. Peut-être c'est une hypothèse intéressante à creuser. Moi, ce que j'ai jamais ressenti, c'était qu'il y avait la volonté, ou disons, j'ai très rarement ressenti dans ces périodes-là l'impression quelque part que il fallait arriver, par exemple, à une position affirmée avant, parce qu'on craignait quelque part que les choses partent en votation populaire. C'est pas le problème. Le problème, c'est plus la pression internationale. Le problème, c'est plutôt le fait qu'on ait tout à coup des situations qui créent ce qu'aujourd'hui on dirait une insécurité juridique. C'est-à-dire qu'on arrive avec un truc qui péclote pendant longtemps plutôt que de régler les choses, d'avoir un cadre juridique qui soit stable. C'est plus ce genre de choses qu'on sent, ou des situations qui pourrissent, où on perd le contrôle parce que finalement ils pourrissent. C'est plus ce genre de choses que j'ai senti dans les PV du Fort ou de l'ASB par rapport au-delà des finances publiques. Moi, le fait, on craint rarement finalement un scrutin populaire. Quand le scrutin populaire arrive, de toute façon, on arrive à faire avec un appareil de propagande à la fois médiatique, je crois que ça je le montre quand même assez bien avec par exemple les débats de 50 où la droite revient avec une solution complètement absurde pour supprimer l'impôt fédéral direct et où ils passent à deux doigts de réussir à imposer une solution qu'ils ne souhaitent pas mais qui leur permet quelque part de temporiser et d'éviter la pérennisation d'un impôt direct trop fort qu'ils ne souhaitent pas non plus. Moi, je trouve qu'on voit plutôt la puissance de feu de cet appareil-là et sa capacité à capter la démocratie directe plus que sa crainte ou sa dépendance à l'égard d'un scrutin populaire. Mais...
Bon. D'autres choses à ajouter ?
Est-ce qu'on oublie, justement, cette thèse ?
Sans doute beaucoup d'autres choses.
Bon, un truc qui est quand même intéressant, et moi, je trouve que ça, c'est quelque chose... C'est un truc sur lequel on a assez peu... Je vois malheureusement peu de gens qui s'emparent de ça, alors que je pense que c'est un truc intéressant, et je pense que ma thèse le montre quand même assez bien. C'est la position particulière de la Suisse dans le paysage monétaire international de cette époque. Le fait de quand même avoir le culot de dire « nous, on n'est pas aligné sur Bretton Woods, nous, on a une monnaie qui fonctionne sur l'or », le fait de choisir quelque part un peu une position quand même assez gonflé à ce moment-là, vu la position diplomatique de la Suisse en matière de politique monétaire internationale, C'est quelque chose qui serait très intéressant à analyser en ayant en tête les années 70, les années 70.
Ouais.
Et le fait quand même que si le dollar tombe de son piédestal de monnaie internationale de référence, c'est dû à la Banque nationale suisse. Là, il y a quelque chose. Et je pense qu'aujourd'hui aussi, pour comprendre quelque part l'animosité de pans quand même étendue de la place financière américaine à l'égard de leurs concurrents suisses qui disent on est un petit pays, on est méchant, on est gentil, puis vous êtes des méchants, vous nous voulez du mal, il faut quelque part avoir ce regard historique. Et là, il y a quelque chose, il y a une continuité quand même assez forte, je trouve, entre la Suisse des années 45-50. La Suisse des années 70 et la Suisse des années 90-2000, autour justement son rôle comme place pour contourner, que ce soit les embargos américains, le contrôle américain du marché international d'échange, ce genre de choses. Je trouve que là, il y a quelque chose d'assez intéressant. Cette perspective un peu... Dans le domaine de la politique monétaire internationale, la Suisse comme grande place financière et le rôle que ça a eu un peu en négatif pour les États-Unis, je trouve qu'il y aurait vraiment encore un sujet d'analyse. Bon, ça, c'est peut-être pas pour un historien suisse, mais ça m'a beaucoup démangé. Si j'avais eu le temps, je pense que c'est là-dessus que j'aurais travaillé un peu la Suisse, les États-Unis.
Sur l'histoire du dollar et de la BNS, qu'est-ce que. Là, j'avoue. C'est une histoire économique. Donc, c'est au moment de l'abandon de l'étalon noir en 71.
On ne sait pas. Il n'y a pas encore vraiment d'histoire qui est faite, mais effectivement, donc le dollar est gagé sur l'or, et puis il y a on est en pleine guerre du Vietnam, le dollar perd sur les marchés libres, perd sa valeur année après année, puis le marché libre, en gros, c'est le marché des euro-dollars qui est domicilié en Suisse. Tous les autres pays sont dans un régime de taux de change fixe, avec des attaques spéculatives très importantes qui sont menées contre le dollar, avec notamment les arbitrages en or, et tout ça, c'est le marché de l'or, et c'est Zurich. Donc on est avec un truc où, en gros, les attaques contre la monnaie américaine sont faites depuis la Suisse. Ce n'est pas uniquement les banques suisses, parfois c'est des banques européennes qui font leurs activités en Suisse, parfois c'est des banques américaines, mais on est déjà dans cette situation où, au fond, la réglementation helvétique dans ce domaine-là dessert les intérêts américains. À l'époque, c'est les terroristes, c'est les Russes qui achètent ou qui vendent du dollar, qui achètent de l'or ou qui vendent du dollar, c'est des choses de ce style-là. Donc voilà, mais on est dans cette situation-là. Et puis, en 71, quand finalement le régime des taux de change fixe tombe, le premier pays qui dit « Nous, on arrête d'importer l'inflation américaine parce que quelque part, ça a des conséquences trop importantes pour nous », donc qui lâche le dollar, qui décide de laisser flotter le cours du dollar, c'est les Suisses. Et il y a une étrange continuité dans cette histoire parce qu'à l'époque, c'est M. Lloyd Wieler qui est à la Banque nationale suisse, qui est en fait le junior dans ses premières années de travail de Maxi Clay, qui lui est son senior, mais qu'on a dans ma thèse. Donc là, je trouve qu'il y a eu... Et c'est, je trouve assez fascinant de se dire, ces gens, au fond des années 60, fin des années 60, début des années 70, quand ils ont ces débats sur la valeur de la monnaie, quelque part, ils ne sont pas dans rien. Ils réfléchissent avec les années 40, les années 50 en tête. Et puis ça, je trouve que c'est aussi quelque chose d'assez intéressant, une forte continuité, quelque part.
Bien, ben merci beaucoup.
Merci d'avoir respecté aussi le timing précis, c'est 17h30.